proclamer dans ce qu'on vit, Seigneur, tu n'as pas dit ton dernier mot. Si tout nous semble noir, tu n'as pas dit ton dernier mot.
Et si l'ennemi, il semble rire de nous, il ne va plus rire très longtemps. Parce que ça va être fini. Parce que Dieu est le Dieu de victoire et n'a pas dit son dernier mot.
Amen. 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 Si Seigneur, Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Amen. C'est Dieu qui aura le dernier mot. Amen. Alors, aujourd'hui, c'est particulier, extraordinaire. Dieu m'a dirigé vers un thème particulier, c'est l'adoration. L'adoration, bien sûr, qui doit devenir pour nous un style de vie. Vous êtes d'accord avec ça? C'est le style de vie. Hein. On aime bien le style, dans le style. Mais le style, pour le chrétien, c'est l'adoration. Et ça n'a pas changé depuis 2000 ans. D'accord? Alors, peu importe le style vestimentaire, la façon de louer, mais l'adoration, c'est vraiment le style que nous devons adopter. L'adoration. Important. Alors, nous allons parler du roi Josaphat aujourd'hui. Le roi Josaphat, c'est le fils d'Asa, et c'est un homme qui va faire des réformes, un homme qui va faire des changements, il va y avoir des choses extraordinaires dans la vie, au travers de sa vie. C'est un réformateur qui ramène le peuple de Dieu vers le Dieu de l'Alliance, et au niveau religieux, il y a des réformes au niveau politique. Et on le voit dans 2 Chroniques au chapitre 17, son fils Josaphat, le fils d'Asa, régna à sa place. Josaphat se fortifia contre Israël. Le Seigneur fut avec Josaphat. Faut savoir que Juda et Israël étaient séparés. Hein. Vous savez, hein, il y a eu trois rois qui ont régné sur un empire unifié, qui sont Saül, David et Salomon. Puis il y a eu Roboam et Jéroboam, la naissance de deux pays séparés. Roboam régnait sur Juda, Jéroboam au nord régnait sur Israël, 10 tribus, 2 tribus. Et voilà, ça a duré pas mal de temps comme ça. Et voilà que Josaphat vient à régner. Il y a eu du bon et du mauvais en Juda. Il y a eu des bons rois, il y en a eu des mauvais qui ont précédé aussi, qui n'ont pas toujours été fidèles. Et Josaphat, lui, en tout cas, voulait bannir les idoles, l'idolâtrie. Hein, l'Éternel, ton Dieu, est un. Et il devait revenir au Dieu de l'Alliance. Hein. Et donc, c'est toujours la difficulté pour Israël de se détourner des dieux des autres nations alentour. Quand on se laisse aller, eh bien, c'est toutes sortes de péchés qui viennent dans nos vies. Hein. Et nous avons à combattre un ennemi qui est féroce, qui essaie de nous faire tomber d'une manière ou d'une autre. À ce temps-là, c'était l'idolâtrie. Et on voit dans 2 Chroniques 17, donc, verset 3, « Le Seigneur fut avec Josaphat, car il suivit les premières voies de David, son père, et ne recherchait pas les Baals. » Les Baals et les Astartés, hein, c'est les dieux de cette époque des autres nations. Mais il rechercha le Seigneur, le Dieu de son père, il marcha dans ses commandements et il n'agit pas selon les œuvres d'Israël. Israël s'était déjà fortement écarté depuis Jéroboam, hein, qui avait fait construire une idole à Bethel et à Dan, au nord et au sud du pays d'Israël, pour ne pas qu'il retourne à Jérusalem pour adorer le Dieu d'Israël. Mais pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'il revienne sous la coupe du roi Roboam. Et puis des rois de Juda qui vont suivre. Et ils servaient quand même l'Éternel. Le veau était censé représenter l'Éternel, mais très rapidement, ils vont en faire des idoles, etc. Ils vont adorer toutes sortes d'idoles en Israël. Alors, 2 Chroniques 19, il institua des juges dans le pays. Il veut qu'il y ait la justice qui règne dans le pays. Dans toutes les villes fortifiées de Juda, ville par ville, il dit aux juges: considérez ce que vous allez faire, car ce n'est pas selon l'homme que vous devez juger, mais selon le Seigneur qui sera avec vous dans cette fonction de jugement. Ayez du courage et agissez, et que le Seigneur soit avec celui qui fera le bien. Donc, il veut vraiment réformer la société, que la société de Juda puisse vivre selon le droit, et que religieusement, ils doivent vivre selon les règles. Ils doivent vivre selon la loi. Ils doivent respecter les commandements du Seigneur. Et Dieu le bénit. Dieu approuve les réformes de Josaphat. Et quand on prend des décisions de servir Dieu, Dieu ne peut qu'être content de nous. Hein? Quand on est ferme dans les résolutions que nous prenons pour servir le Seigneur, et combien Dieu est heureux de cela, quand il nous voit lire la parole, prier, rechercher le Seigneur. Je crois que c'est des choses qui sont importantes. Alors, Josaphat met fin à l'état d'hostilité qui existait entre Juda et Israël. Ils se sont battus les uns contre les autres et finalement, il y a une paix. Et c'est profitable, évidemment, d'avoir une paix. Et peut-être qu'ils rêvaient d'une unité, d'une certaine unité, finalement, comme il y avait eu il y a longtemps. Mais seulement, il ne va pas discerner le mal dans le fait de s'unir à Akab, qui était apostat. Il avait une femme qui était Jézabel, qui adorait les Baals et les Astartés. Et s'allier avec Akab est une erreur. Alors, un prophète va venir l'exhorter pour ne pas s'unir au royaume du Nord, qui adorait les idoles, et il va quand même le louer pour tout ce qu'il a fait de bien. Hein? Je pense que Dieu, quand il voit une faute chez nous, il nous en parle éventuellement, mais il va aussi souligner tout ce qui va bien. Je crois que c'est bien. Il y a du bien, il y a du moins bien. Mais voilà, comme dans les lettres de l'Apocalypse, allez voir dans Apocalypse chapitre 2, verset chapitre 3, voyons les sept lettres de l'Apocalypse, eh bien, Dieu commence d'abord par le bien, il y a de bonnes choses, en général, hein, il y a quelques églises qui n'auraient pas grand-chose de bon, mais en général, il y a du bon, et puis, ou alors, il y avait surtout deux églises qui étaient très très bonnes, hein, il y avait Philadelphie notamment, hein, qui était vraiment une église formidable. Alors, c'est vrai, le Seigneur souligne ce qui va bien dans nos vies, mais comme il est un Dieu de vérité, il ne manque pas de montrer ce qui ne va pas. Et alors, fort de cette exhortation, Josaphat décide de continuer les réformes dans la religion et dans l'État. Il encourage le culte de l'Éternel, bien entendu. Il nomma de nouveaux juges et dota Jérusalem d'une cour suprême. Il fait des choses vraiment très très bien. Alors on pourrait dire, maintenant, ça va aller, hein. C'est formidable. Il fait de bonnes choses, il fait revenir le peuple vers l'Éternel, donc il ne peut qu'être béni, ça, c'est formidable, tout va bien. Ça va bien aller, alors. Eh bien, c'est justement à ce moment-là que l'ennemi va se déclarer. C'est quand nous nous rangeons pour servir le Seigneur, pour être droit devant lui, que tout d'un coup, l'ennemi attaque à fond. Furieusement, rageusement, c'est quelque chose de terrible qui est en train de se produire. C'est à ce moment que Satan envoie des ennemis contre lui. C'est à ce moment-là, quand on est obéissant à Dieu, que l'ennemi va fondre sur nous. Après cela, donc c'est dans 2 Chroniques au chapitre 20, à partir du verset 1er. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Amnon, accompagnés par des Maonites, vinrent faire la guerre à Josaphat. On vint l'annoncer à Josaphat en disant « Une grande multitude est venue contre toi d'au-delà de la mer, c'est-à-dire Édom, et les voilà à Assason-Tamar, c'est-à-dire Engedi. » Verset 3, Josaphat eut peur. Une multitude, une grande multitude qui vient contre lui. Une multitude, certainement beaucoup plus nombreuse que les soldats qu'il possédait. Il y a de quoi avoir peur. Il tremble. Mais il ne va pas en rester là. Parce que, voilà, quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est autre chose. En tout cas, nous voulons nous rappeler un verset de Pierre qui dit ceci dans le chapitre 4, verset 12, « Mais bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. » On ne doit pas considérer la fournaise dans laquelle on peut se trouver à certains moments comme quelque chose d'étonnant. Tout à fait normal pour eux. Celui qui veut servir Dieu, celui qui veut dire « Allez, je vais m'engager à servir Dieu », eh bien, c'est le moment où l'ennemi va se déchaîner. c'est le moment choisi par le diable pour nous attaquer. Et ceux qui servent Dieu connaissent ce genre d'expérience, ça s'appelle le combat spirituel. Nous sommes attaqués par l'ennemi de manière rageuse quand nous voulons nous lever pour servir le Seigneur. Quand nous nous levons, l'ennemi se lève avec nous, hein, pour nous combattre et essayer de nous rabaisser, nous empêcher d'avancer. L'ennemi nous attaque quand nous prenons la décision de servir Dieu. Alors, Josaphat doit répondre à cette agression, mais comment répondre à l'agression? Comment est-ce que nous répondons à l'agression? Quand l'ennemi nous agresse, comment est-ce que nous faisons? C'est quoi notre réaction? Réaction de la chair, nous nous tournons vers les hommes, nous nous appuyons sur quoi et sur qui? Alors, va-t-il laisser la peur le conseiller? Vous savez que la peur est une mauvaise conseillère. Elle nous fait faire prendre des décisions inverses à la volonté de Dieu. Non, il ne laisse pas l'émotion prendre ses décisions. Ce n'est pas la peur qui va diriger ses actions. Et il va proclamer un jeûne. Première chose, il proclame un jeûne. On va jeûner. Tout le peuple va jeûner. Tout le peuple va jeûner, rechercher la face de Dieu. Deuxièmement, il écoute Dieu par la voix d'un prophète. Et Dieu parle quand on veut l'écouter, quand il voit un peuple à l'écoute du Saint-Esprit. Quand Dieu voit que nous sommes attentifs à ce que nous devons recevoir, ce que nous voulons recevoir de la part de Dieu. C'est-à-dire pas nos propres pensées, mais la pensée venant de Dieu. Quelquefois, on écoute Dieu pour écouter nos propres pensées. On voudrait que Dieu dise ce que nous pensons, mais ce n'est pas le cas. Ici, ils veulent écouter vraiment la pensée de Dieu. Et ils donnent prophétiquement le conseil de Dieu. On voit ceci. Il décida de consulter le Seigneur et il proclama un jeûne sur tout Juda. Judas se rassembla, il se rassembla. Tous les hommes, les femmes, les enfants vont se rassembler à Jérusalem pour implorer le Seigneur. On vint même de toutes les villes de Juda pour implorer le Seigneur. Josaphat se tint dans l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison du Seigneur, en face du parvis neuf. Il dit, « Seigneur, Dieu de nos pères, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans les cieux et toi qui domines sur tous les royaumes des nations ?» Dans ta main, il y a la force et puissance, et nul ne peut s'affronter avec toi. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël, et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, ton ami? Ils y ont habité, et ils y ont construit pour toi un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il vient sur nous un malheur, épée, châtiment, peste ou famine, si nous nous tenons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison, et si nous crions vers toi dans notre détresse, tu exauceras et tu sauveras. Et maintenant, voici ces fils d'Ammon, de Moab et de la montagne de Séir, les Édomites, chez lesquels tu n'as pas donné à Israël la permission d'entrer après sa sortie de la terre d'Égypte, puisqu'il s'est détourné d'eux et ne les a pas anéantis. Et voici ces gens-là qui nous récompensent en venant nous déposséder de la propriété que tu nous as attribuée. Notre Dieu, n'exerceras-tu pas ton jugement sur eux? Car nous sommes sans force devant cette grande multitude qui vient contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux regardent vers toi. Tout le peuple de Juda se tenait debout devant le Seigneur, ainsi que leurs familles, femmes et enfants. Au milieu de l'assemblée, l'Esprit du Seigneur fut sur Yahaziel, fils de Zécariahou, fils de Banaïa, fils de Yéel, fils de Matania, le Lévite des fils d'Azaph. Il dit, faites tous attention, peuple de Juda, habitants de Jérusalem et roi Josaphat, ainsi vous parle le Seigneur, ne craignez pas et ne vous effrayez pas devant cette multitude nombreuse, car cette guerre n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. Demain, descendez contre eux, les voici qui montent par la montée de la fleur, et vous les trouverez à l'extrémité du ravin, en face du désert de Yeruel. Vous n'aurez pas à y combattre. Présentez-vous, arrêtez-vous, et regardez la victoire du Seigneur en votre faveur. Juda et Jérusalem, ne craignez pas et ne vous effrayez pas. Demain, sortez au devant d'eux, et le Seigneur sera avec vous. Donc les conseils, c'est très simple, ne pas avoir peur du déploiement de l'adversaire. Aucune peur. Ce n'est pas leur combat, et quand nous sommes attaqués, ce n'est pas notre combat, c'est celui du Seigneur. Si nous sommes chrétiens, nous nous revendiquons de lui, que nous obéissons à sa voix et à sa parole, nous faisons ce qui lui est agréable, nous n'avons rien à craindre. Prophète, c'est un petit prophète, enfin grand par la parole qu'il nous annonce, Zacharie, ni par force ni par puissance, disait-il, mais par mon esprit. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance humaine, mais c'est par l'esprit du Seigneur. Demain, ils doivent descendre contre eux, à l'extrémité du ravin, en face du désert de Yeruel. C'est tout ce que Dieu leur demande de faire. Se présenter, descendre, être à un certain endroit et s'attendre. S'attendre à la manifestation de Dieu. Se trouver en face de l'adversaire. Ça me fait penser au psaume 23. Dieu nous installe à une table en face de nos adversaires. Dieu nous demande de regarder nos adversaires avec une joie. Dieu met il verse une huile sainte sur nos vies. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons, avec joie, regarder notre adversaire, le diable, en face des yeux. Sans crainte. Sans crainte. Josaphat adore Dieu et les Lévites de même. Voilà, la réaction de Josaphat, c'est pas la peur, c'est pas aller se cacher, c'est pas faire un trou dans la terre et se cacher, je ne sais pas comment, mais c'est adorer Dieu. Adorer Dieu. Et les Lévites de même. Il encourage le peuple. Et écoutez ce que Josaphat dit. Une parole extraordinaire. Ayez confiance dans le Seigneur, votre Dieu, et vous serez invincibles. Ayez confiance et vous serez invincibles. Ayez confiance dans ses prophètes et vous réussirez. Il met devant les hommes de guerre les adorateurs qui louent et acclament Dieu avec des instruments. Donc, ça, il ne va pas mettre d'abord les hommes de guerre devant, mais il va mettre devant les adorateurs, ceux qui louent Dieu avec des instruments. C'est eux qui vont aller devant. Ça nous fait penser à Josué, bien sûr, quand il a fait le tour de la ville cette fois, de Jéricho. C'était avec ceux qui adorent. Ceux qui adorent étaient devant. Extraordinaire. Le plus grand service qu'on peut rendre à Dieu, c'est de l'adorer, le louer. Le remercier, ce n'est pas nos actions qui vont glorifier Dieu en premier. C'est d'abord avoir confiance en lui. Avoir confiance en lui. Réaliser que c'est par la grâce que nous tenons debout. Nous sommes sauvés par nos œuvres. Même si nos œuvres sont importantes, je veux bien, mais pas pour notre salut en tout cas. Dieu nous aime. Et Dieu est avec nous, il veut que nous puissions le mettre en premier dans nos vies. Ayez confiance dans le Seigneur. Vous serez invincibles. Quel bouclier, c'est un bouclier. J'adore Dieu, mais c'est un bouclier. En adorant Dieu, je proclame ma foi dans le Dieu Tout-Puissant qui éteint tous les traits enflammés du malin. Alors, quel est le résultat d'une adoration ? À la place d'utiliser des armes charnelles pour faire la guerre dans le sang, la chair et le sang, c'est pas ça. Hein? Vous avez déjà sûrement vu beaucoup de films avec des violences inouïes, avec des êtres humains, mais ce n'est pas le sang et la chair qui irritent la vie éternelle. Ce n'est pas un combat contre le sang et la chair, c'est un combat contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça n'a rien à voir avec le sang et la chair. Dieu ne nous appelle pas à frapper les autres. Dieu nous appelle à nous humilier devant la puissante main de Dieu, à obéir à ses injonctions, à obéir à ce qu'il nous demande, à adorer le Seigneur. C'est lui qui intervient. Vous savez, il a des armées au ciel. Il est l'Éternel des armées. Il y a des armées qui combattent pour nous. Il y a des armées d'anges qui combattent. Pour nous, ce n'est pas à nous à faire ce combat. C'est notre combat, c'est lui demander d'agir, prier, et puis adorer le Seigneur. C'est l'adoration qui plaît à Dieu. Parce que nous remettons la souveraineté à Dieu. Personne n'est Dieu sinon lui. Et quelquefois, des hommes se prennent pour Dieu. Mais ce n'est pas l'ordre. Résultat, verset 22. Au moment où ils commençaient leur acclamation de louange, le Seigneur mit des agents de discorde parmi les fils d'Ammon, de Moab et de la montagne de Séir, venus en Juda, et ils se battirent entre eux. Ils se battirent entre eux. Les fils d'Ammon et de Moab se levèrent contre les habitants de la montagne de Séir pour les détruire et les exterminer. Quand ils eurent fini avec les habitants de Séir, ils contribuèrent à s'anéantir les uns les autres. Finalement, Israël va regarder, il va voir la victoire se produire sans devoir se battre. Parce que leurs ennemis s'entretuent. Et Israël n'a pas à combattre. Simplement être là, dans l'adoration, dans la confiance. Ils regardent la victoire du Seigneur. Verset 24, quand Juda parvint au promontoire d'où l'on observe le désert, il se tourna vers la multitude. Voilà que c'était des cadavres gisant à terre sans aucun rescapé. C'était une multitude de cadavres, des gens allongés par terre dans tous les sens. Un grand silence. 3 jours qu'il a fallu pour piller le butin. 3 jours. 3 jours pour piller le butin. Car il était tellement abondant. Au 4e jour, ils se rassemblèrent à la vallée de bénédiction, car là, ils bénirent le Seigneur. Ils vont appeler cette vallée, c'est pas la vallée du carnage qu'ils vont appeler, ils vont appeler ça la vallée de la bénédiction, parce que Dieu leur a donné une victoire extraordinaire. Aussi a-t-on donné ce lieu le nom de vallée de bénédiction Baraka, la bénédiction du Seigneur. Ils s'en retournèrent à Jérusalem dans la joie. Et ça, c'est un fruit de la victoire, c'est un résultat, car le Seigneur les avait réjouis aux dépens de leurs ennemis. Ils avaient une joie extraordinaire. Verset 28, ils entrèrent à Jérusalem au son des harpes, des lyres et des trompettes. Nous avons entendu des beaux instruments ce matin. Les voix, mais aussi les instruments. Combien ça fait chaud au cœur d'entendre cela. Et c'est au son des trompettes, au son des luttes, des chalumeaux, qui vont aller jusqu'à la maison du Seigneur pour le remercier. Pour le remercier. La crainte de Dieu va être dans le cœur de tous les habitants des autres royaumes. La crainte de Dieu fut sur tous les royaumes des pays. Ils avaient peur. C'est pas la crainte de Dieu, je respecte Dieu. C'est plutôt une peur d'Israël aussi, une peur du Dieu d'Israël. Ils s'y tiendront dans leurs frontières. Ils ne sortiront plus contre Israël. Parce que Dieu a donné une victoire extraordinaire. Et verset 30, le règne de Josaphat fut calme et son Dieu lui accorda du repos de tous côtés. Quand on obéit à Dieu, il y a des moments de guerre. Et David a eu beaucoup de guerres. Il a dû combattre énormément. Et regardez, après son fils, 40 ans de paix au temps de Salomon. Extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'il a dû combattre ? L'adoration, c'est une priorité. Ça doit être une priorité dans notre vie. Ça doit être une priorité numéro un, adorer le Seigneur. Tout est là. Notre confiance est marquée dans l'adoration. Celui qui adore Dieu, c'est parce qu'il a confiance en Dieu. Quelqu'un qui n'a pas confiance ne va pas adorer Dieu. Il va peut-être lire la Bible, il va peut-être prier, mais adorer Dieu, ça, c'est difficile. Mais si on a confiance en Dieu, c'est possible. C'est quelque chose de réel. Alors, il arrive que nous ne comprenons pas le chemin que Dieu nous fait traverser. On ne comprend pas pourquoi certaines épreuves sont là. Moi, si j'avais pu choisir, je ne prends pas toutes ces épreuves que j'ai vécues. Je ne les prends pas. Je prends autre chose. Mais ça, on ne choisit pas. Hein. Les épreuves, on ne les choisit pas. Vous ne les choisissez pas. Moi, je ne les choisis pas. Nous ne les choisissons pas. Et il nous demande de le louer, de le remercier et de l'adorer. Voilà ce qu'il nous demande. Remercier Dieu, louer Dieu, adorer le Seigneur. Quelqu'un a dit, le bonheur n'est pas d'obtenir ce que vous voulez, mais d'apprécier ce que vous avez déjà. Chaque jour, remerciez Dieu. Chaque jour, apprenez à remercier Dieu. Quand viendra les difficultés, vous pourrez encore le remercier. Je me rappelle, un jour, j'ai eu un accident sur la neige. Ma voiture a dérapé et je me suis retrouvé en face d'une autre voiture qui roulait aussi pas mal vite. Mais j'ai fait un accident frontal et c'est quand même moi qui ai dévié de ma trajectoire. Mais la première chose que j'ai eue quand j'ai pu reprendre ma respiration, parce que j'étais bloqué pendant un certain temps, mais la première chose c'est louer Dieu. J'ai loué Dieu. Peut-être les gens vont dire, il est fou celui-là. J'ai loué Dieu. Parce que je suis resté en vie. Les gens qui étaient en face sont restés en vie. Il y avait un pouce qui était cassé, je pense. Deux voitures complètement foutues, mais finalement, les dégâts corporels étaient minimes. Et j'ai loué le Seigneur. Tous les événements de notre vie et de votre vie sont dans les mains de Dieu. Il n'y a rien qui lui soit étranger. Dieu connaît tout. Il connaît ce qui se passe en vous et par rapport à vos circonstances. Henri Nouwen disait que le plus grand défi pour ceux d'entre nous qui veulent vivre en disciples du Christ est de reconnaître et d'accepter que même les événements les plus imprévisibles de notre existence ne sont pas vraiment des obstacles, mais le moyen utilisé par Dieu pour modeler notre cœur et notre caractère afin de nous préparer à accomplir ses plans. Donc, au travers des circonstances, au travers des difficultés que Dieu permet. Je ne dis pas que toutes les difficultés qui nous arrivent, c'est Dieu qui veut qu'on les ait. Il les permet. Des fois, c'est dû à nos fautes, nos erreurs, nos manquements. Des fois, c'est des circonstances qui sont là. L'ennemi nous charge. Et nous ne savons pas faire autrement que de passer au travers de cette épreuve. On aimerait bien de passer au-dessus, de passer sur le côté. Des fois, on doit passer en plein centre de l'épreuve. C'est pas toujours facile, mais c'est pour modeler notre cœur et notre caractère, pour que notre cœur, notre caractère puisse ressembler davantage à celui de Jésus. Et quelquefois, c'est l'épreuve qui transforme nos vies. C'est dur, hein? Pourquoi tant de difficultés? Mais Dieu a un plan, et moi je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, Dieu a la capacité de vous dire pourquoi vous devez passer par là. Je ne peux pas tout dire, je ne peux pas tout expliquer. Au psaume 22, versets 2 à 9, il est dit ceci, c'est extraordinaire. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parole de Jésus sur la croix, 1000 ans plus tôt, c'est David qui le cite. « J'ai beau rugir, mon salut reste loin. Le jour que j'appelle et tu ne réponds pas, mon Dieu. La nuit et je ne trouve pas le repos. Pourtant tu es saint, tu es le saint. » Tu trônes, toi, la louange d'Israël, tu trônes au milieu des louanges, tu sièges au milieu des louanges de ton peuple d'Israël, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Alors, si Dieu demeure dans la louange, si Dieu demeure dans l'adoration, alors moi je veux que ma vie soit une vie d'adoration. Si Dieu se plaît au milieu de la louange, alors mon cœur ne va pas s'arrêter d'adorer Dieu. Vous savez quoi? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et Dieu est en vous. Et Dieu veut siéger, non pas sur le trône de quelqu'un qui se lamente, de quelqu'un qui dit du mal des circonstances et des autres, ou même de soi-même. Pour les meilleurs des plus dépressifs, hein, parce que souvent on accuse tout le monde, mais ça ne nous sauvera pas. Dieu veut que nous soyons vraiment le temple du Saint-Esprit dans le sens d'adorer Dieu dans notre cœur. Lui qui siège dans notre cœur, il mérite notre adoration. Il mérite d'être adoré. Dieu comprend par où je passe. Dieu comprend par où tu passes. Il comprend exactement. Dieu veut que nous puissions désespérer de nous-mêmes. Désespérer de nous-mêmes, ça veut dire quoi ça? La solution, elle n'est pas en nous. La solution, elle est en Dieu. Il y a des gens qui pensent que dans la société, trouve la solution en toi. Elle est en toi, la solution. Mais elle est en Dieu. Elle est en Dieu, la solution. Bien sûr que Dieu nous donne les forces de nous reconstruire. Bien sûr que Dieu nous donne la force de passer l'épreuve. Mais c'est en Dieu que nous trouvons cette force. Mais il faut désespérer de nous-mêmes. Parce que ce n'est pas nos forces sur lesquelles nous devons nous appuyer. Si nous nous appuyons sur nos forces, ça va être limité et ça va rater. Ça ne peut pas réussir. Nos forces sont limitées. Elles sont trop petites par rapport aux épreuves que nous passons. Dieu désire siéger dans notre cœur et y chasser le doute, le désespoir, la peur et les soucis. Dieu veut chasser toutes ces choses. Et Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 20, de louer Dieu en toutes choses et en tout temps. En toutes choses et en tout temps, l'adoration doit vraiment être là dans nos vies, en toutes circonstances. Corrie ten Boom, connaissez Corrie ten Boom? Une femme hollandaise qui est née à Amsterdam, qui a vécu à Harlem, et sa famille, son père et sa sœur, etc. Eh bien, ils ont accueilli des juifs dans leur maison. Ils ont accueilli des juifs, ils les ont cachés. Ils avaient une cachette derrière la chambre de Corrie, cachette extraordinaire, parce que les SS n'ont rien vu. Ils ont essayé de trouver, ils n'ont pas. Donc ils ont caché à certains moments, à quelques heures, des juifs, quelquefois plus longtemps. Puis à un moment donné, il y en a eu 6 qui étaient calés là. Et ils ont été dénoncés. Et les 16 sont arrivés dans la maison, ils ont essayé de trouver, ils n'ont pas trouvé. Ils se sont dit, ils savent qu'il y a une cachette, c'est pas grave, on va poster des gens, ils devront bien, à un moment donné, mourir de faim, ils devront sortir, et on va les attraper. Et la police ayant entendu cela, ils vont. Justement, des policiers qui aimaient le Seigneur, et ils ont demandé pour y être. Ils ont demandé pour y être. Et c'est grâce à un policier qui connaissait l'un d'eux, le nom. Ils avaient des autres noms que leur propre nom, hein, pour se cacher, etc. Et il a donné ce nom, et il a pu faire sortir ceux qui étaient dans la cachette, grâce à cette famille. Et puis, Corrie et sa sœur vont être envoyés à. En Allemagne, et ils vont connaître Ravensbrück. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils ont tellement d'amour pour le Seigneur qu'ils veulent partager l'Évangile. Et il y avait un endroit où les SS n'allaient pas. Ils n'y allaient pas parce que il y avait des poux et des puces, mais c'était infernal. C'était pas possible. Et c'est là, dans cet endroit, dans une aile, dans un bâtiment où personne ne voulait aller, c'est là qu'ils ont formé des gens. Ils ont parlé du Seigneur, ils ont évangélisé, ils faisaient des études bibliques dans cet endroit où personne ne voulait aller. Ça puait, ça schlinguait dans tous les sens. C'était affreux, c'était terrible, des conditions épouvantables. Et c'était des baraquements surpeuplés. Et elle louait Dieu pour les puces et les poux qui leur permettaient d'évangéliser. Elle louait le Seigneur. Parce que là, personne n'osait aller. Alors, notre travail avec Dieu produira des fruits si nous louons Dieu. L'esprit de louange donne de la joie et de l'assurance. C'est sûr, la louange, c'est une force. Je proclame des choses dans le chant, dans la louange, avec les instruments. Nous proclamons des paroles puissantes, des paroles qui résonnent jusqu'au ciel. Et voilà, nous nous emparons d'une assurance qui vient de Dieu, que le Saint-Esprit met dans nos cœurs, parce que nous proclamons sa sainteté, sa majesté, sa puissance. Et il est véritablement avec nous. La joie de la louange est notre allié dans le service, dans notre service pour Dieu et dans toute notre vie, dans tous les aspects de notre vie. Alors, nous pouvons choisir d'habiter dans la vue de la louange. ou dans l'avenue des lamentations? Qu'est-ce que vous choisissez? Vivre dans l'avenue de la louange ou vivre dans l'avenue de la désolation, de la consternation, des lamentations? Qu'est-ce que vous choisissez? Quand nous habitons rue des Lamentations, qu'est-ce qui se passe? Rue des Lamentations. Eh bien, on laisse, et nous ne devons pas faire cela, nous ne devons pas laisser les circonstances, ça c'est très important, nous ne devons pas laisser les circonstances déterminer notre présent et notre avenir. Ne laisse pas les circonstances t'aveugler au point de te pénaliser par rapport à ton présent et ton avenir. Ne laisse pas la peur détruire tes rêves et ton espérance. Ne laisse pas vraiment la peur détruire cela. Il aurait pu faire de mauvais choix, Josaphat. Nous pouvons quelquefois faire de mauvais choix. Ne fais pas ces choix mauvais. Ne laisse pas le doute et les plaintes envahir ton cœur. Ne laisse pas les plaintes envahir ton cœur. Il est dit ceci dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. William Murray disait « À l'instant où vous prenez l'engagement d'être fidèle à Dieu, la providence divine vient vous épauler. En accueillant le Seigneur comme un enfant, on se laisse porter par lui. » Et un pasteur éprouvé, fortement éprouvé, reçut un jour une merveilleuse réponse à ses anxiétés. Rentrant à la maison avec un paquet pour sa femme, il s'arrêta auprès de sa petite fille paralysée, assise dans son fauteuil. « Où est maman ?»« En haut, » dit-elle. « Bien, j'ai un paquet pour elle et je monte le lui donner. » Et la petite fille répondit « Oh papa, laisse-moi le lui porter. »« Mais Mini, tu ne peux pas. » Elle était handicapée. Avec un petit sourire, l'enfant répondit « Oh non papa. » Mais tu me donnes le paquet, je porte le paquet et toi tu me portes. Alors le pasteur prenant sa fille dans ses bras, la monta dans l'escalier avec le paquet, il en tira une leçon pour son ministère. Si nous nous laissons porter par Christ, il portera en même temps nos fardeaux. Si nous nous laissons porter par Christ, laissons-nous porter par Christ. C'est ça aussi notre louange. Se laisser porter par Christ. Faisons pas des efforts ahurissants pour nous en sortir. Laissons-nous porter par Christ. Et ainsi, il portera aussi nos fardeaux. En conclusion, nous devons apprendre à louer Dieu en toutes circonstances. Parce que si c'est seulement dans les moments où tout va bien, c'est un peu facile. Je suis dans une soirée louange, alors tout va bien, demain je reprends mes problèmes, mais aujourd'hui ça va bien. Non, tous les jours, dans les circonstances les plus difficiles, j'apprends à louer Dieu. Notre vie aura un sens et nos circonstances aussi. Quand on loue Dieu, on sait que Dieu a tout entre ses mains. Il est souverain. Il est souverain sur nos problèmes, quels qu'ils soient, même si je ne les comprends pas. Parce que bien souvent, le propre des problèmes qu'on vit, on ne les comprend pas. On peut rester calé avec ça. Mais louons le Seigneur, regardons le Seigneur. Lui, il sait comment il va débloquer l'histoire. Je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne peux pas savoir ce que demain Dieu va faire. Mais aujourd'hui, je veux m'appuyer sur Dieu. Une vie vécue dans la louange est comme un feu ouvert dans lequel nous mettons des bûches. Hein, vous avez un feu ouvert ou une cassette, vous mettez des bûches. Moi, j'aime bien ça. Les bûches spirituelles, nous allons les mettre dans le feu de l'adoration, d'accord? Les bûches spirituelles. Nous voulons être chaud pour Dieu, nous voulons être bouillants pour le Seigneur, nous voulons être fortifiés dans l'amour du Seigneur. Alors, nos bûches spirituelles, ce sont toutes les promesses de la parole de Dieu, par exemple, que ta santé dure autant que tes jours, Deutéronome 33, verset 25. Beau verset qui nous parle d'un rétablissement dans la santé. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Vous êtes soutenu, le Seigneur vous tient dans sa main. On n'a pas à avoir peur, parce que le Seigneur, il est là. S'il y a des bûches qui activent le feu de l'espérance, il y a aussi des embûches, aussi, des pièges, qui veulent nous écarter du plan divin. Et quelles sont les embûches que l'adversaire a pour nous? Ces pièges, ils sont déjà de notre part. Il y a une part aussi au niveau des embûches. C'est la négligence de la parole, les soucis, les doutes, les pensées, les paroles négatives. Ne confessons pas le négatif. Nous allons nous rappeler que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Il sait comment il va faire pour ton épouse, pour ton époux. Il sait quand ton fils reviendra transformé à la maison. Dieu a un avenir pour ton couple. Dieu va bénir tes finances. Ne te tracasse pas pour ton travail. Ne coule pas à cause des échecs dans tes études. Ne coule pas. Dieu va t'utiliser puissamment si tu résistes dans l'adversité. Ah, il faut résister. Et la résistance, c'est de continuer à le louer et l'adorer même quand on ne voit rien. Il va transformer la vallée des larmes et de l'effroi en vallée de bénédiction. C'est extraordinaire. La vallée où on a une peur, il va la transformer en vallée où il y a de la joie. Par l'adoration, Dieu va nous garder en lui et nous allons voir que Dieu est en train de travailler sur nos ennemis et va mettre en déroute l'adversaire. Loue le Seigneur sans crainte, car tout pouvoir est au Fils dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir lui a été donné. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme peur et crainte? Tout lui est soumis. Nous allons remercier le Seigneur et l'adorer. De qui aurais-je peur? De quoi est-ce que j'aurais peur? Est-ce que nos amis peuvent revenir? Nous allons louer le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur de tout notre cœur. Levons-nous et louons le Seigneur.